Merci d'écouter RFI 13h en temps universel. Il est 14h ici à Paris. RFI Midi se poursuit avec à la une le décès de Jean-Marie Le Pen, personnalité majeure de la vie politique française, fondateur du parti d'extrême droite Front National. On en parle dans un instant dans le journal. Puis nous passerons comme chaque jour 20 minutes sur le continent américain pour revenir sur la démission du Premier ministre au Canada, sur les tensions qui montent au Venezuela à l'approche de l'investiture très contestée de Nicolas Maduro pour un troisième mandat. Et puis on parlera de l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, notamment de la saison touristique en Guadeloupe. Ça commence bien.
Oui, en Martinique pour être plus précis, les images des émeutes urbaines sur toutes les chaînes de télévision n'incitaient pas vraiment à l'optimisme, mais finalement, c'est plutôt bien parti. Reportage à suivre.
Nous irons donc en Martinique. À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et tout de suite, donc, c'est le journal. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence avec ce décès de Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite en France.
Jean-Marie Le Pen, entouré des siens, a été rappelé à Dieu ce mardi à midi. C'est par ce communiqué que la famille Le Pen a annoncé la disparition du fondateur du Front National. Sa fille, Marine Le Pen, était elle dans l'avion qui la ramène de Mayotte à Paris. Un déplacement suivi par Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Il nous raconte comment Marine Le Pen a appris la nouvelle.
Et bien sur le retour de Mayotte pour Paris, il y a une escale technique à Nairobi au Kenya. Et bien c'est à l'atterrissage de l'avion que l'agence France Presse nous a donc appris le décès de Jean-Marie Le Pen. Et c'est via les téléphones portables des journalistes que Marine Le Pen a appris la nouvelle. Marine Le Pen qui a d'abord cherché à se faire confirmer l'information. Elle est allée s'isoler à l'avant de l'avion avant de revenir en larmes. Il reste donc 9 heures de trajet avant que la double finaliste de la présidentielle revienne à Paris. Voilà ce que l'on peut vous dire pour l'instant.
Marine Le Pen, qui n'a donc pas encore officiellement réagi. Jordan Bardella est lui le premier à avoir communiqué. Président du parti, héritier du RN, fondé par Jean-Marie Le Pen, il a salué la mémoire d'un homme qui, je cite, « a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté ». À l'autre extrême de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon écrit « Le combat contre l'homme est fini, celui contre la haine et le racisme continue ». Et puis le Premier ministre français, François Bayrou, qui réagit à l'instant. Au-delà des affrontements, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française, écrit François Bayrou. Jean-Marie Le Pen qui aura donc irréversiblement marqué la politique française, et ce au rythme de ses provocations, ses scandales et ses coups d'éclat. Valérie Gasse revient sur la carrière de celui qui était parvenu il y a 23 ans à accéder au second tour de l'élection présidentielle.
Avril 2002, Jean-Marie Le Pen provoque la stupeur en France. Le président du Front National, parti d'extrême droite, devance Lionel Jospin, le candidat socialiste, au premier tour de la présidentielle et se retrouve pour le duel final face à son ennemi juré, Jacques Chirac. Le score du second tour est sans appel. Jacques Chirac est élu avec 82% des voix, porté par un véritable front républicain. Mais qu'importe pour Jean-Marie Le Pen, il s'agit tout de même d'une victoire. Désormais, il est incontournable. Après 4 candidature à la présidentielle après quelques percées, comme en 1986 quand le Front National profite de la proportionnelle et réussit à envoyer une trentaine de députés à l'Assemblée. Et même si le FN a failli imploser à la fin des années 90, Jean-Marie Le Pen a réussi à ancrer son parti, créé en 1972 dans le paysage politique français, à devenir le cauchemar de la gauche et le diviseur de la droite républicaine, qu'il renvoie d'ailleurs dos à dos. Préférence nationale, lutte contre l'immigration, sécurité sont le fond de commerce de Jean-Marie Le Pen, qui s'est illustré tout au long de sa carrière politique, débutée dans les années 50, par des dérapages verbaux mémorables. En 1987, il dépasse les bornes et compare les chambres à gaz à un détail de l'histoire. Orateur flamboyant et provocateur, Jean-Marie Le Pen a tenu la maison FN jusqu'en 2011, quand il en a remis les clés à sa fille Marine et a alors été à son corps défendant le témoin de sa tentative de dédiabolisation, avant d'être exclu en 2015 du parti qu'il avait créé après une ultime brouille.
Valérie Gasse, et nous reviendrons sur l'impact de Jean-Marie Le Pen dans la vie politique en France dans une édition spéciale à partir de 17h10, temps universel.
La France qui rend hommage aujourd'hui à ceux tombés il y a 10 ans dans l'attentat contre Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo, increvable, voilà les trois mots qui s'affichent en une du numéro spécial de Charlie Hebdo, où l'on peut voir un lecteur du journal tout sourire assis sur le canon d'un fusil d'assaut. Il y a 10 ans, jour pour jour, la rédaction de l'hebdomadaire satirique était la cible d'un attentat. Deux terroristes se réclamant d'Al-Qaïda au Yémen pénétraient dans les locaux du journal et abattaient plusieurs dessinateurs et journalistes membres de la rédaction. Le bilan total est de 12 morts et 10 ans après Baptiste Coulon, la France se souvient, plusieurs commémorations ont eu lieu ce matin à Paris.
Frédéric Boisseau, Franck Rincelaro, Cabu, Elsa Kayat.
12 noms égrenés un par un pour 12 victimes du terrorisme. Presque les seules paroles prononcées lors de cette matinée d'hommage, sobre et silencieuse. Dépôt de gerbes devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, minute de silence et marseillaise. Puis c'est à pied et en silence encore que les familles, les rescapés, les officiels vêtus de noir parcourent les 200 mètres qui les séparent du second lieu de recueillement.
À la mémoire du lieutenant de police, Ahmed Merabé, victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir.
Ahmed Merabé, le policier qui avait tenté de s'interposer face aux deux terroristes dans leur fuite. Des journalistes de Charlie Hebdo, des officiels, des confrères du commissariat où il exerçait assurent les dépôts de gerbes. Un ultime moment de recueillement a lieu devant le magasin Hypercacher où quatre personnes ont été tuées il y a 10 ans par un autre terroriste, Amédi Coulibaly, troisième et dernier attentat de ce janvier noir en France.
Baptiste Coulon. Bougie dans une main et drapeau géorgien ou européen dans l'autre, des milliers de manifestants ont convergé cette nuit devant le Parlement, rassemblement à l'occasion du Noël orthodoxe. La Géorgie, théâtre d'importantes manifestations depuis le 28 novembre et l'annonce du Premier ministre de ne pas poursuivre les négociations d'adhésion à l'Union européenne avant 2028. La justice coréenne approuve un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre de Yoon Suk-yeol. Le service anticorruption n'était pas parvenu à arrêter le président déchu dans les délais impartis. Destitué de ses fonctions après avoir tenté d'imposer la loi martiale en Corée du Sud, Yoon Suk-yeol reste retranché dans sa résidence.
Donald Trump Jr. en visite au Groenland.
Le fils aîné du président américain élu en déplacement sur cette immense île arctique proche du pôle Nord. Le Groenland, terre de convoitise, Donald Trump a récemment relancé son idée d'un rattachement de ce territoire aux États-Unis. Des déclarations et une visite, bien que non officielles, qui font grincer les dents au Danemark. Carlotta Morteo, qu'est-ce qui se joue autour de ce territoire ? Donald Trump veut-il sérieusement se rattacher au Groenland ?
C'est vrai que depuis 2019, déjà, Donald Trump avance régulièrement cette hypothèse qu'il qualifie de nécessité absolue pour la sécurité des États-Unis. Hier encore, il écrivait sur son réseau social Truth « Quand les habitants du Groenland deviendront une partie de notre nation, je cite, ils en tireront un énorme bénéfice ». À chaque fois, les autorités danoises rappellent que le Groenland n'est pas à vendre et on voit mal les Américains envahir l'un de leurs plus proches alliés en Europe du Nord. Mais pour Donald Trump, alimenter la spéculation est peut-être le meilleur moyen de mettre la pression sur le Danemark, puisque au Groenland se trouve la base militaire la plus septentrionale des États-Unis, la base aérienne et spatiale de Thule, qui est un maillon essentiel de la chaîne de radars censée détecter d'éventuels tirs balistiques vers les États-Unis. Or, Washington reproche à Copenhague de ne pas avoir assez investi dans la sécurité de cette île stratégique. Hasard de calendrier ou réponse aux provocations de Donald Trump, le Danemark a annoncé à Noël avoir débloqué plus de 1,5 milliard de dollars pour la défense du Groenland. Une tentative aussi de juguler les revendications séparatistes grandissantes sur ce territoire autonome, une ancienne colonie danoise où les prétentions de Donald Trump sont utilisées comme un levier pour s'émanciper du contrôle de Copenhague.
Carlotta Morteo, merci à vous. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À la suite d'RFI Midi, c'est avec vous, Anne Cantner.
Et merci Simon Bourtembourg. Durant les 20 prochaines minutes, nous restons sur le continent américain.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Un flou politique fâcheux, l'incertitude, voilà les mots de la presse canadienne au lendemain de la démission du Premier ministre. Justin Trudeau a annoncé qu'il quitterait son poste dès que son parti aurait désigné un nouveau leader en vue des prochaines élections. Et même si ça n'est pas une surprise totale, ce départ a suscité beaucoup de réactions politiques, Pascal Guéricola.
Pour l'instant, les partis d'opposition ne peuvent pas renverser le gouvernement de Justin Trudeau, car les travaux au Parlement sont suspendus jusqu'au 24 mars. Cela n'empêche pas Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, d'adresser cet avertissement au successeur du chef du Parti libéral.
Ce qui ne doit pas arriver, c'est de créer le moindrement des délais indus ou de fantasmer sur une élection qui serait très tardive. Il faut qu'il y ait une élection générale au milieu du printemps 2025, c'est très clair.
De son côté, le parti conservateur qui domine dans les sondages ne veut surtout pas qu'un nouveau chef prenne l'avantage. Voilà pourquoi son dirigeant Pierre Poilievre a pris soin de faire cette déclaration dans une vidéo diffusée sur X.
Tous ces politiciens libéraux ont activement aidé Justin Trudeau à hausser les taxes et impôts. Tous ont voté ou appuyé activement les dépenses incontrôlées. La dette incontrôlée, l'immigration incontrôlée.
Quelques homologues de Justin Trudeau qui dirigent des provinces canadiennes lui ont rendu hommage. C'est le cas de la première ministre du Nouveau-Brunswick dans l'est du Canada. Elle a aussi salué sa décision de partir dans le but de faire baisser la tension politique au Canada. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Fin de mandat précipité et poussive pour Justin Trudeau après des semaines de crise politique sur fond de tensions douanières avec la future administration américaine. Et pour mieux comprendre l'héritage qu'il laissera au Canada, Nicolas Roca a interrogé Frédéric Boily, professeur de politique canadienne et québécoise à l'Université de l'Alberta.
Bonjour Frédéric Boily, quel bilan tirez-vous après presque 10 ans de Justin Trudeau à la tête du Canada?
C'est un bilan contrasté, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, identifier deux périodes. La première période, celle de 2015 à 2019, lorsque le gouvernement était majoritaire. À ce moment-là, Justin Trudeau avait les coudées franges et il a quand même pu initier un certain nombre d'initiatives politiques, proposer un processus de réconciliation avec les Autochtones, une politique environnementale plus vigoureuse que par rapport à celle de Stephen Harper, l'idée de défendre la classe moyenne comme il l'a proclamé et qui s'est surtout manifesté lors de la pandémie. Ce sont des réalisations politiques tout de même appréciables, mais ça s'est dégradé par la suite avec l'élection de 2019 et l'élection de 2021, lorsqu'on a vu le gouvernement être mis en minorité et obtenir des victoires seulement parce que le vote libéral était très efficace, qui était surtout dans les grandes villes au pays ou dans certaines provinces, mais en même temps, ces résultats électoraux-là montraient un pays qui était en train de se fractionner entre l'Est et l'Ouest. Et il aurait fallu apporter des correctifs ou des ajustements qui auraient peut-être permis aux libéraux d'obtenir des victoires majoritaires.
Qu'est-ce qui, selon vous, a précipité la chute de Justin Trudeau?
Beaucoup de choses, mais je vous dirais que Justin Trudeau a perdu, moi, ce que j'appelle l'art de gouverner, c'est-à-dire qu'on pensait peut-être, après la pandémie, que l'État devait continuer à être très présent pour soutenir économiquement les Canadiens, mais en même temps, il s'est développé l'idée qu'on a perdu la maîtrise des finances publiques, laisse entendre qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion et que maintenant, il faut justement changer tout l'équipage de l'avion par un équipage conservateur, si on en croit les sondages et les intentions de vote.
Est-ce que le Parti libéral-démocrate, la formation de Justin Trudeau, a encore une chance de garder la main sur le pouvoir ou bien est-ce que cela vous semble très compromis?
Très, très compromis, je dirais, suite aux sondages dans les intentions de vote qui, depuis presque 2 ans maintenant, indique que les conservateurs ont la faveur de l'électorat canadien, et pas simplement là, par quelques points de pourcentage, mais les derniers sondages montraient que les marges entre le Parti conservateur du Canada et le Parti libéral étaient maintenant à plus de 20 points de différence, même 25 points, ce qui, avec un système de scrutin majoritaire à un tour au Canada, pourrait laisser entendre un balayage conservateur. Justin Trudeau représentait la marque de commerce libéral plus que le Parti libéral lui-même et qu'à partir du moment où son image est abîmée, ça peut laisser entendre que la côte est difficile à remonter pour quelque chef que ce soit et qu'il y aurait possiblement un long purgatoire politique à passer pour le Parti libéral avant d'espérer revenir au pouvoir.
Quels sont les grands thèmes, les grands sujets sur lesquels s'appuient les conservateurs pour capitaliser sur les différents échecs de l'administration Trudeau? Finalement, qu'est-ce qu'incarne le leader conservateur, le favori des sondages, Pierre Poilievre?
Il s'est notamment mis en opposition sur un point central de l'approche libérale, à savoir la lutte contre les changements climatiques avec une taxation sur le carbone. Le slogan de Pierre Poilievre, axe de taxe, couper de la taxe, est maintenant un slogan non seulement partagé par les conservateurs, mais aussi même par une grande partie de la gauche canadienne. Et ça a mis sur la défensive Justin Trudeau et ça donne beaucoup de potentiel électoral pour Pierre Poilievre, notamment dans les provinces de l'Ouest. Et peut-être en sous-texte également, tout ce qu'on peut appeler la lutte contre le wokisme et certaines politiques libérales jugées par les conservateurs comme étant excessivement inclusives ou mettant trop l'accent sur la diversité ont conduit également une partie de l'électorat canadien à se tourner vers les conservateurs, à tel point d'ailleurs qu'on a vu les libéraux reculer sur ce qui était un élément central également de leur approche, je dirais presque historique depuis 1945, la question de l'immigration. Et ça, c'est un autre élément du discours conservateur, c'est-à-dire le Canada, et je reprends le slogan de Pierre Poilievre, le Canada est brisé, le Canada est disloqué, le Canada n'arrive plus économiquement à performer comme il le faisait auparavant, n'a plus le contrôle de ses frontières, de son système d'immigration, a perdu la maîtrise des finances publiques et a des politiques environnementales au détriment de l'économie. Donc, c'est temps de changer.
Donald Trump a joué un rôle très important dans cette crise en menaçant d'imposer des droits de douane de 25% à son voisin canadien. Est-ce que le scénario du départ de Justin Trudeau, une possible arrivée des conservateurs au pouvoir, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Donald Trump?
Potentiellement, on peut penser qu'effectivement, Donald Trump préfère une administration conservatrice, quoique dans le contexte actuel, avoir un premier ministre en position de faiblesse au Canada, avoir un premier ministre qui ne contrôle pas forcément tous les leviers de commande, avec des premiers ministres sur les scènes provinciales qui agissent un peu comme des électrons libres. On voit par exemple le premier ministre de la province de l'Ontario ou la première ministre de la province de l'Alberta pratiquement essayer de négocier tout seul avec l'administration américaine. Dans l'optique, évidemment, de Donald Trump, c'est peut-être une période favorable pour lui pour obtenir des gains supplémentaires auprès du Canada. En tout cas, il semble suivre la situation au Canada parce qu'il a publié quelques posts avant les fêtes au sujet de cette situation-là. Donc, d'avoir un gouvernement libéral en position de faiblesse, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup Justin Trudeau, c'est peut-être une situation favorable pour lui dans les prochains mois et défavorable pour le Canada, cependant.
Frédéric Boily, professeur de politique canadienne et québécoise à l'Université de l'Alberta, il répondait à Nicolas Roquin.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
L'actualité du continent et ses chiffres de plus en plus sombres concernant la violence en Haïti. Plus de 5600 personnes ont été victimes de la violence des gangs l'an dernier. C'est un millier de plus que l'année précédente. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, qui publie ces chiffres, précise qu'ils ne peuvent pas à eux seuls rendre compte des horreurs absolues perpétrées dans le pays. 9h18 à Caracas et des crispations de plus en plus fortes au Venezuela qui s'affichent dans la presse. Vincent Souriau, nouvelle passe d'armes entre le régime de Nicolas Maduro et les deux grands visages de l'opposition qui revendiquent toujours la victoire à la présidentielle de juillet dernier.
Oui, la tension monte à l'approche du 10 janvier. Cérémonie d'investiture du président de la République, c'est vendredi dans 3 jours. Nicolas Maduro entend bien prêter serment pour un 3e mandat. Pour lui, c'est une certitude. Il a remporté ce scrutin qui s'est tenu en juillet 2024. Près de 52% des voix contre 43% à l'opposition.
Ça, ce sont les chiffres présentés par le Conseil national électoral qui est totalement acquis à la cause du président sortant.
Oui, et malgré les accusations de fraude massive, cet organe n'a jamais produit aucun document détaillé à l'appui de ce calcul. Or, l'opposition, elle, l'a fait. Elle a compilé des milliers de récépissés de votes issus des urnes électronique placée partout dans le pays et l'opposition en a conclu que Nicolas Maduro était battu à plate couture. Conséquence de ce conflit, on s'en souvient, on en a beaucoup parlé ici, violence post-électorale à Caracas et ailleurs, près de 30 morts, 200 blessés et 2500 arrestations.
Depuis lors, le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia s'est exilé en Europe pour éviter les rafles du régime, mais il se considère comme le président légitime du Venezuela.
Exactement, il est allé chercher hier à Washington le soutien de la Maison Blanche, d'où il a lancé un appel à l'armée vénézuélienne, appel à le reconnaître comme le seul et unique dirigeant élu du Venezuela. Appel évidemment très mal reçu par les militaires. Réponse en forme de gifle formulée hier par le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López.
Nous rejetons catégoriquement cet acte de bouffonnerie politique qui n'aura pas le moindre impact sur la conscience patriotique et révolutionnaire des forces armées bolivariennes. L'armée, en parfaite cohésion politique, populaire et militaire avec les autorités, défendra la Constitution et les lois de notre nation ainsi que sa liberté et son indépendance.
soberanía e independencia.
Padrino López ajoute que le 10 janvier, Nicolas Maduro sera bel et bien reconnu comme le président constitutionnel du Venezuela, commandant en chef des armées, et qu'il n'est pas question de lui désobéir. Et pour enfoncer le clou, les forces de sécurité sont déployées dans les rues de Caracas.
Et on s'attend à un coup de chaud.
Oui, parce que Edmundo González Urrutia, qui a quitté le pays il y a 4 mois, affirme vouloir revenir au Venezuela alors qu'il a déjà un mandat de recherche sur le dos et que le pouvoir promet 100 000 $ à quiconque permettra de le localiser. Menace d'ailleurs explicite hier du ministre de l'Intérieur qui promet de l'arrêter. Mais ce que dit en substance l'autre figure de l'opposition restée dans la clandestinité au Venezuela, Maria Corina Machado, c'est que les Vénézuéliens en ont vu d'autres et que la balle est dans leur camp.
De toute évidence, le régime n'a plus que la peur. Il a perdu tout soutien populaire, il a perdu toute légitimité et il est complètement isolé. Et nous, les Vénézuéliens, nous savons que si nous sortons tous, des millions d'entre nous, comment quelques centaines ou quelques milliers de personnes armées pourraient-elles s'en prendre à 30 millions de Vénézuéliens ? En fin de compte, la seule façon d'être libre est de vaincre la peur. Nous, les Vénézuéliens, nous l'avons démontré. Et je pense que toutes ces menaces, ce déploiement d'armes et ce langage grossier et agressif proviennent de ceux qui savent qu'ils sont prêts à quitter le régime.
Attention donc Anne à la journée de jeudi, après-demain à la veille de la cérémonie d'investiture. Choc à prévoir dans la rue, puisqu'à la fois l'opposition et le gouvernement appellent leurs partisans à manifester.
Merci Vincent Souriau.
RFI. La radio del mundo.
Nous sommes à 2 semaines maintenant de la prestation de serment de Donald Trump et le retour au pouvoir du républicain aux États-Unis inquiète beaucoup de migrants. Les autorités du Guatemala ont d'ailleurs annoncé hier préparer un plan spécial face à la menace d'expulsion massive de leurs ressortissants. Plus de 2,5 millions de personnes aux États-Unis, mais 400 000 seulement avec des autorisations de travail. Ce sont ces migrants qui sont dans le collimateur de Donald Trump qui a promis pendant sa campagne la plus grande opération d'expulsion de l'histoire contre des personnes qui, elles, risquent leur vie pour rejoindre les États-Unis. Car ils sont nombreux à mourir en chemin, comme l'a constaté notre envoyé spécial à Falfurrias. C'est une petite ville du Texas, près de la frontière mexicaine. Et là-bas, le cimetière local marque, pour beaucoup, la triste fin d'un périple dangereux et incertain. Éric Sanson.
Officiellement, ce grand espace ombragé à la limite de Falfurrias est le cimetière du Sacré-Cœur du comté de Brooks. Mais ici, on le connaît surtout comme le cimetière des John et Jane Doe, pour le dire à la française, le cimetière des migrants inconnus, victime des dangers d'une région que Mélissa connaît bien.
C'est plat, c'est sec, c'est sauvage, avec de la végétation souvent épaisse, pas facile à traverser. Il peut y avoir des serpents, des pumas, des taureaux, des scorpions. Il y a un peu de tout par ici.
Sans oublier la chaleur du sud du Texas et un terrain où il est facile de se perdre et de mourir, comme l'explique Victor Hugo Castillo, correspondant de Telemundo et de La Voix de l'Amérique au Texas.
S'ils n'ont pas de papier d'identité sur eux, les migrants décédés sont des cadavres anonymes. Si les familles ne réclament pas les corps entre 30 et 60 jours, les corps terminent dans des fosses communes au cimetière de Falfurrias.
Des fosses communes qu'il est difficile de localiser quand on visite le cimetière pour la première fois, mais que les locaux connaissent bien. Victor Hugo Castillo.
Ce terrain vague-là, sans pierre tombale, était une fosse commune de migrants anonymes. Il y a quelques années, une université locale est venue. Avec tous les permis en règle, ils ont exhumé les restes pour prélever de l'ADN et faire une banque de data.
Il y a 10 ans, les professeurs et étudiants universitaires ont récupéré les restes de 50 migrants anonymes, puis 60 l'année suivante. Si un jour des familles de migrants disparus les contactent, des comparaisons d'ADN pourraient leur permettre de savoir ce que leurs proches sont devenus. Mélissa connaît l'existence de ces fosses communes, elle qui vient tous les 3 mois pour nettoyer la tombe de sa grand-mère.
Oui, je connais leur histoire. De nombreux migrants sont enterrés ici parce que malheureusement, beaucoup meurent en essayant de traverser la région. À cause de la chaleur, ils n'ont pas de vivres ou d'eau, ils restent trop longtemps dehors et parfois ils sont même victimes des basses températures et parfois ils n'ont simplement plus d'énergie.
Des migrants que sa grand-mère aidait sans hésiter, elle qui n'avait pas oublié ses origines mexicaines.
Je me souviens quand j'étais petite, dans le ranch de la famille, je voyais beaucoup de migrants qui avaient réussi à traverser et ma grand-mère avait l'habitude de leur donner de l'eau et des vivres.
Aujourd'hui, le relais a été pris par le Centre pour les droits humains du Sud Texas, installé à Falfurrias. Quelques semaines avant de mourir d'un cancer du pancréas l'été dernier, le fondateur du centre, Eddie Canales, y installait encore des bidons d'eau pour les migrants.
On a un programme de création de points d'eau pour que les migrants qui traversent la région à pied puissent boire et vivre. On les met dans les ranges, sur les chemins, là où on peut. En décembre 2023, on en avait installé 77.
Très régulièrement, les volontaires et avocats du centre sont appelés lorsque des corps de migrants sont découverts dans la nature. Un peu moins quand même ces dernières années, selon Eddie Canales.
Les zones de passage de migrants irréguliers ont changé. En ce moment, ils passent plus à l'ouest, vers Eagle Pass et Piedras Negras. Du coup, il y a peu de morts chez nous. En 2021, on a récupéré 121 corps. L'année suivante, 89, et ça baisse lentement.
Pour installer les points d'eau et limiter l'hécatombe, le Centre des droits humains du Sud Texas doit convaincre les éleveurs locaux et les propriétaires fonciers dans un état du Texas aussi divisé que le pays sur le sujet migratoire. Victor Hugo Castillo.
Le pays est divisé sur les questions migratoires. La moitié des États-Unis dit « Venez, soyez les bienvenus ». Ici, il y a du travail, vous serez protégés, venez. C'est le message de l'administration actuelle. Mais l'autre moitié est tout à fait contre. Si tu arrives irrégulièrement, tu dois être arrêté et emprisonné.
Et en attendant, les fosses communes du cimetière de Falfurrias continuent de se remplir. La fin du rêve américain pour de nombreux migrants anonymes. Eric Sanson, Falfurrias, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, que l'on retrouve. Benoît, malgré les récents événements liés à la lutte contre la vie chère, la haute saison touristique a plutôt bien démarré en Martinique.
Les images des émeutes urbaines sur toutes les chaînes de télévision n'incitaient pas franchement à l'optimisme, mais après un début en demi-teinte, ça va mieux. Manuel Larade.
La Martinique est à nouveau une destination demandée par les visiteurs. De ce fait, les affaires reprennent tout doucement pour les agences de location de voitures. Bénédicte Hubel, la secrétaire de la location Lislou, le confirme.
On a vu une toute petite baisse, mais ça va. Par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'on a vu la petite baisse, mais ça va. Plus de touristes, plus de visiteurs, plus de visibilité surtout.
Si la location de véhicules repart à la hausse, la répercussion se fait également sur la fréquentation en hôtellerie.
Nous avons un léger retard, oui, comme tout le monde peut accuser durant ces dernières semaines, je pense. Non, nous n'avons pas eu une grande partie d'annulation comme on aurait pu le craindre, mais nous avons quand même eu, on va dire, quelques légères annulations.
Ça peut être dû à la crise.
Je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne le confirmerai pas ni l'infirmerai, mais effectivement, peut-être que c'est possible. Et nous espérons que la saison va mieux se terminer qu'elle l'a commencé. Nous restons toujours optimistes.
La haute saison touristique semble être prometteuse pour les professionnels, mais la situation sociale dans notre île reste encore instable.
Utiliser l'avion pour aller au lycée lorsqu'il n'y a pas de route, c'est la routine pour les élèves des communes guyanaises dites de l'intérieur. Encore faut-il évidemment qu'il y ait un avion, comme l'explique Daniel Bernardin, président d'un collectif citoyen, au micro d'Olivier Damon.
Depuis les vacances scolaires de Noël, il y a eu beaucoup d'annulations de vols au départ de Cayenne. Les enfants n'ont pas été pris en charge ni informés de la situation. Et là, depuis le retour aussi sur le littoral, c'est exactement le même problème. Il y a des listes qui ne sont pas complets. Il y a des élèves qui ne figurent pas sur les listes des vols. Parce que les élèves, il y en a certains qui viennent de Papaichton, qui habitent sur Maripasoula. Et des fois, ils attendent toute la journée parce qu'on demande une heure et demie d'enregistrement avant l'heure de départ. Et quand l'avion, le vol est annulé, les élèves ne sont pas pris en charge. Quand les élèves doivent repartir à leur domicile comme à Papaichton, il y a une heure de trajet, 30 euros l'aller. On demande à la CTG et à Xanfa de trouver une solution rapidement pour que les élèves puissent aller retourner à l'école le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a plein d'élèves qui sont sur l'aérodrome qui disent « Aujourd'hui, normalement, je devais commencer mon stage. Ben, » aujourd'hui, ils sont absents.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. On se retrouve demain à partir de 11h30, temps universel. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Et vous le savez, vous pouvez retrouver toutes nos informations, toutes nos émissions sur l'application RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous.